VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Lydia Dakar, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Cameroun, deux civils ont été tués jeudi soir dans un attentat suicide perpétré dans l'extrême nord du pays. Théâtre d'attaques fréquentes du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Une kamikaze est entrée à Limani sur la frontière avec le Nigeria où elle s'est fait exploser derrière l'école publique de la ville, a affirmé une source proche des services de sécurité. La région de l'extrême nord est confrontée depuis plusieurs semaines à une résurgence d'attaques de Boko Haram après des mois de relative accalmie. Au Nigeria voisin, l'armée défense est haut gradé accusée d'avoir commis des exactions dans la guerre contre Boko Haram. Un responsable militaire a rejeté l'idée d'une enquête judiciaire ou de poursuite contre les commandants mis en cause. Eric Manirakiza.
Des galons aux épaules, du sang sur les mains, titrait le rapport d'Amnesty publié en juin 2015. Selon cette ONG, plus de 1200 personnes ont été tuées, des milliers d'autres arrêtées, de manière arbitraire pendant les 8 années de conflit. 6 commandants en activité ou à la retraite ont été accusés de meurtre, torture ou disparition. 2 ans après, le général Nuhu Angbazo refuse de juger des personnes citées, indiquant qu'il n'y a aucune preuve. Il a également répété que les forces de sécurité n'ont pas tué 150 manifestants indépendantistes du Biafra, contrairement aux affirmations d'Amnesty International. Ce responsable à l'armée a toutefois reconnu la lenteur dans la libération des civils détenus par des prisons militaires dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. En réponse à ces déclarations, Amnesty dit maintenir les conclusions de son rapport, défiant le rapport de l'armée nigériane pour établir et rendre publique l'innocence des hommes incriminés. L'ONG demande la mise en place d'une commission présidentielle d'enquête. Pour le moment, le président Muhammadu Buhari se trouve depuis plusieurs semaines à Londres pour des raisons de santé.
Toujours concernant la lutte contre les djihadistes en Afrique, la France reste persuadée que l'ONU va approuver et appuyer la création d'une force conjointe anti-djihadiste par les pays du G5 Sahel. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, l'a dit hier à Dakar, au Sénégal, deuxième étape de sa tournée africaine, Abdourahmane Dia.
Le projet de résolution présenté par la France pour appuyer le déploiement de la force conjointe du G5 Sahel rencontre des réticences au Conseil de sécurité, en particulier de la part des États-Unis. Mais Jean-Yves Le Drian a salué l'initiative des 5 pays, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, qui ont décidé de mettre en place une force conjointe pour lutter contre le terrorisme. Nous pensons qu'il faut appuyer cette démarche parce que la sécurité des Africains ne viendra que par les Africains eux-mêmes, a ajouté le chef de la diplomatie française lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue sénégalais. Après Conakry et Dakar, il doit se rendre à Nouakchott qui abrite le siège du G5 Sahel. Le prochain sommet du groupe des 5 est prévu le 2 juillet prochain à Bamako en présence du président français Emmanuel Macron.
RDC, le ministre congolais de la justice Alexis Tambwe Mwamba est visé en Belgique par une plainte pour crime contre l'humanité. Il est accusé d'être responsable du crash d'un avion civil pendant la rébellion du RCD Goma au Congo démocratique. Solange Nyamwimbisa.
Plusieurs plaignants, dont Oscar Rachidi, qui préside la Ligue congolaise contre la corruption et la fraude, ont déposé le 16 mai une plainte contre le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba. Cette information n'a pas été confirmée par le parquet de Bruxelles. Selon Maître Alexis de Waef, son avocat belge, M. Rachid, qui a le statut de réfugié en Belgique, a perdu des membres de sa famille dans le crash le 10 octobre 1998 d'un Boeing 727 de la compagnie Congo Airlines. L'avion a été abattu près de Kindu avec 50 personnes à bord par un missile tiré par le Rassemblement congolais pour la démocratie. À l'époque, Alexis Tambwe Mwamba avait reconnu que la rébellion avait abattu un avion civil avec à son bord 40 militaires et du matériel de guerre pendant qu'il s'apprêtait à atterrir à Kindu. Mais, selon la compagnie aérienne, l'avion avait en fait été abattu peu après avoir décollé de Kindu avec à son bord une cinquantaine de civils, dont des femmes et des enfants qui fuyaient les combats. Cette affaire intervient alors que les relations sont tendues entre Kinshasa et l'Union européenne, et en particulier la Belgique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique du Sud, Durban accueille cette semaine la 8e conférence sud-africaine sur le sida. Avec 7 millions de personnes vivant avec le VIH, l'Afrique du Sud est le pays le plus touché dans le monde. C'est aussi l'État qui gère le plus important programme de médicaments antirétroviraux, les ARV. Mais les spécialistes s'inquiètent du fort taux de nouvelles infections parmi les jeunes femmes, une tendance présente ailleurs sur le continent africain. Les détails avec Jacques Aristide.
Dans une taverne dans le canton d'Alexandra, Johannesburg, une jeune femme de 19 ans, elle demande de l'appeler Carabo. C'est ici qu'elle rencontre ses partenaires sexuels, celui du présent rendez-vous à plus d'une quarantaine d'années.
Je me suis dit que je suis en train de faire des choses et que je suis en train de
Carabo explique que les rapports sexuels avec les hommes plus âgés et parfois violents et toujours sans préservatif. Pour l'activiste anti-sida Mark Haywood, l'Afrique du Sud parvient à traiter le VIH avec succès, mais n'arrive pas à prévenir les nouvelles contaminations.
What does it tell you about the lack of knowledge?
Qu'est-ce que cela vous dit après 20, 30 ans de lutte contre le VIH? Nous avons vu de façon choquante un déclin de sensibilisation chez les jeunes. C'est comme si nous sommes en train de nous reposer sur nos lauriers.
In certain respects.
D'après lui, plus de 200 adolescentes et jeunes femmes de 15-24 ans sont infectées par le VIH chaque jour dans le pays. Cette même tranche démographique représente un quart des nouveaux cas en Afrique subsaharienne, selon le dernier rapport mondial de l'ONU-SIDA, qui explique que la pauvreté, le manque d'éducation et la violence contribuent à cette situation. Comme dans le cas de Carabo, de nombreuses jeunes femmes pauvres en Afrique du Sud troquent rapports sexuels non protégés avec des hommes plus âgés contre cadeaux et argent. Les travailleurs de la santé croient qu'il s'agit là de la cause principale des nouvelles infections. Mark Haywood demande au gouvernement de gratuitement mettre à la disposition des jeunes sud-africaines le nouveau médicament antirétroviral contre le VIH appelé prophylaxie pré-exposition ou PrEP. Il s'agit d'un traitement préventif qui se prend avant un risque d'exposition au VIH.
Des dizaines de milliards de rands sont volés chaque année dans différents ministères. C'est de l'argent qui pourrait financer des programmes pour réduire la vulnérabilité de ces jeunes femmes. Mais il doit y avoir une volonté politique.
Le ministre sud-africain de la Santé, Aaron Motsoaledi, a entendu le message et entend offrir la PrEP aux jeunes femmes d'ici 3 ans. Mais après avoir réclamé la démission du président Jacob Zuma suite aux affaires de corruption, Motsoaledi se retrouve isolé du gouvernement, ce qui fait dire à Haywood que les politiques novatrices du ministre pour prévenir de nouvelles infections par le VIH ne verront jamais le jour.
Au Maroc, des affrontements ont opposé manifestants et policiers dans la nuit de jeudi à vendredi à Al-Hoceima, dans le nord du pays, où le mouvement de contestation populaire se durcit après une vague d'arrestations et de lourdes condamnations de contestataires. La police a dispersé sans ménagement les manifestants qui ont répondu par des jets de pierre. Des heurts avaient déjà eu lieu dans la ville après la condamnation de 25 jeunes manifestants à 18 mois de prison ferme, les premières sanctions de la justice marocaine depuis le début de la contestation il y a près de 8 mois. Un collectif d'ONG appelé Initiative pour le RIF demande la libération des détenus de Al-Hoceima. Yacouba Ouedraogo.
Ce collectif comprend des associations de défense des droits de l'homme et des intellectuels. Ils estiment que la libération des manifestants est nécessaire pour le début d'un dialogue, faute de quoi les manifestations ne vont pas s'arrêter. L'initiative civile pour le RIF ajoute aussi que le gouvernement doit travailler à satisfaire les revendications sociales. Selon ce collectif, les accusations de séparatisme et de trahison, l'absence des télévisions publiques dans le débat ou les arrestations et le refus du dialogue ne font qu'envenimer la situation.
Et pour terminer, guerre en Syrie, la coalition internationale dirigée par les États-Unis, coalition anti-djihadiste, affirme qu'elle n'est pas en mesure de confirmer l'annonce par Moscou d'une probable mort du chef du groupe État islamique Abu Bakr al-Baghdadi dans une frappe russe près de Raqqa en Syrie. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.